Charles Ferdinand Ramuse, La guérison des maladies. Chapitre 1er. Tout près de la maison, il y avait le lac. Pourtant, on ne voyait pas le lac de la maison. À peine si on apercevait le ciel en se penchant par la fenêtre. C'est ces vieilles petites villes du vignoble qui sont assises entre la pente du mont et l'eau, et la place leur est avarement mesurée, parce que la terre a trop de valeur. Une tête de vierge sculptée dans la pierre se voyait encore au-dessus de la porte d'entrée. C'était au second étage. Et au-dessus de ce second étage, il n'y avait plus que le grenier, plein seulement de courants d'air, plein seulement aussi d'un bruit de noix roulées quand les souris sortaient de leurs trous. Deux petites chambres sous le grenier, voilà, sous le vent et sous les souris, deux petites chambres, et c'est tout. Il y a qu'on ne connaît pas le soleil, parce qu'on est pauvre. La pièce qui vient, c'est un franc. La suivante, c'est un franc, et sitôt parti que venu. L'argent chez nous est comme les gouttes de pluie qui tombent sur la terre sèche. On peut même dire qu'il est bu au sens le plus immédiat du mot. Et on sait assez que boire, en ce sens, est un métier contradictoire aux autres. C'est plus qu'un métier, à vrai dire. C'est une vocation, une carrière. Et Grain avait dû finir par choisir. Il y a ceux qui se contentent de ce qu'ils ont, et il y a ceux pour qui ce qu'ils ont ne compte plus sitôt qu'ils l'ont. Grand départagement des hommes. Lui allait chercher dans le vin, parce que c'est là qu'on a le plus de chances de trouver. Malheureusement, on n'est pas toujours compris. Il y a votre femme, il y a votre propriétaire, il y a vos voisins, et il y a ceux qui n'ont jamais cherché. Ceci disait de Grain, « Dommage, c'était un bon travailleur !» Et eux calculent et ont des livres de comptes et supputent ce qu'ils possèdent. Mais pendant qu'ils sont occupés à leurs alignements de chiffres, moi, je chante, laissant même ma chanson être emportée tout de suite par le vent, comme aujourd'hui, parce que pour une qui méprise, combien d'autres qui viendront? Il était gai, en effet, ce jour-là, comme il rentrait chez lui vers les 3 heures. Un ciel bas de mars et du vent. Il n'allait pas très droit, et il faisait beaucoup de bruit. C'est cette chanson qu'il chantait. Notre bonheur est incomplet quand on est seul à être heureux. J'ai apporté témoignage devant mes frères et sœurs, par le cœur. On ne sait pas s'il fut entendu. Il ne s'en occupait guère. Il continuait de chanter. Il arriva devant sa porte, il tira à la petite vierge un coup de chapeau, et un dernier bout de chanson aussi pour elle, levant le bras et avec un nouveau salut. Puis il se tut, mais il le fallait bien. Commençait, en effet, l'entreprise de l'escalier, qui n'était pas une petite entreprise. Et il s'y absorba, silencieusement. Rien d'autre longtemps dans l'obscurité que son souffle, un peu court quand même. Dure entreprise, comme on voit. Occasion pourtant d'un nouveau plaisir, parce que chaque marche était comme une personne à laquelle il adressait un discours. « Ah, c'est toi ! Eh bien, viens-y !» Et en effet, elles y venaient, l'une après l'autre, bien qu'elles y vinssent assez lentement. Loin de se plaindre qu'il y en eût trop, il aurait aimé qu'il y en eût 10 fois davantage, et plus mauvaise encore qu'elle n'était, plus branlante, plus usée. Des marches pour toute la vie, et on monterait au ciel. Il se mit à rire tout haut. À ce moment, il connut qu'il devait être arrivé au premier étage. Son pied qu'il levait ne rencontra rien. « Bravo ! Un étage de fait !» il riait de nouveau. Grain, Jules, fils de Louis, 48 ans, vigneron. Il recommençait. Un étage de fait, plus rien qu'un. Puis, tant pis. Et il repartit avec plus d'ardeur. Même, il tendit la jambe avec tant d'élan qu'il se cogna durement l'os au tranchant d'un des degrés. À mesure qu'il montait, il s'élevait dans son estime. C'est ainsi que, quand il arriva au second palier, il atteignait à un sommet. Et il y avait tant d'autorité en lui qu'au lieu d'entrer tout droit ou de heurter, il donna un coup de pied dans la porte. Mais là, reparut le malentendu, parce qu'il y avait sa femme. Ce fut elle qui vint lui ouvrir. On a beau être dans le bonheur, il y en a toujours qui n'admettent pas qu'on y soit. On a beau être à une telle hauteur que ce qui est au-dessous de vous en soit presque supprimé. Elle, elle se haussait sur sa supériorité à elle, comme sur un tabouret, et se croyait au-dessus de vous. Elle pinça le nez, elle a creusé ses joues. Heureusement qu'il avait de la force à revendre et qu'il ne se laissait pas arrêter pour si peu. Une dernière marche d'escalier, une dernière forte marche d'escalier, voilà tout ce que c'était, et déjà monté. Il s'était remis à rire. Même, il rit plus fort que jamais. « Femme, te voilà !» Et tendant les bras, « Femme pour la vie !» Il prit son élan. Elle s'était écartée. Il traversa sans le vouloir toute la cuisine, une bonne moitié de la chambre qui venait ensuite. Et il l'eût traversée, elle aussi, tout entière, si la table ne l'avait arrêtée. Alors, il ne sut plus très bien ce qui arrivait. Les murs s'étaient mis à tourner en rond, comme quand on est sur un cheval de bois. Et il y a une musique. Il fallut qu'il bût d'abord une bonne tasse d'air. Mais alors, il connut aussi qu'il avait un poids, une base, une épaisseur, des dimensions. Il connut qu'il faisait gris. Il connut qu'il était penché en avant, qu'il se tenait des deux mains à la table. Finit la belle lumière du dedans, à cause du jour du dehors qui recommençait à entrer. Et ce qu'il y avait aussi dans l'encadrement de la fenêtre, c'était d'étroits tristes petits jardins entre des murs avec des arbres comme des balais. Il ne renonçait pourtant pas. Il y a ces choses, mais il y a moi. Déjà, il se redressait. On ne m'empêchera pas de chanter. Et en effet, tendant les bras, on invitera 100 personnes, toutes les filles du quartier, le patron aussi, la patronne, et ces messieurs les officiers. Ça allait mieux qu'il n'aurait cru. Quand même, il chantait un peu faux, mais il n'y a pas que la qualité, et la quantité y était. Il poussa encore sa voix. Il y aura la fille à Jacques, la fille à Paul, la fille à Jean, et Frédéric qui... Va te coucher! Et Frédéric qui est sergent. Tu entends ce que je te dis? Qui est sergent? Et Luc? Mais il fut coupé cette fois tout net, à cause d'une main qui s'était posée sur sa bouche. Dommage, quand on était tout en haut. Dommage, quand on était dans le bonheur. Seulement, elles sont jalouses de vous. Femme, monte avec moi. Elles ne veulent pas, elles aiment mieux être en bas. Et si on était seules? On pourrait encore remonter, mais elle vous en empêche. » Celle-ci se mit à pendre à lui, si on peut dire, comme une pierre à un cerf-volant. Il regarda s'il ne verrait plus le petit oiseau sur la fenêtre. Le petit oiseau s'était envolé. C'était une mésange, à cause des couannes de l'art. Il se tourna alors vers sa femme. Elle s'était remise à frotter le plancher. Une grande colère lui venait. « Qu'est-ce que tu fais là? Moi, je chante parce que c'est beau. Toi, tu viens et tu m'empêches. Eh bien, je dis que pour l'ouvrage que tu fais, mieux vaudrait me laisser chanter. » Elle ne répondait toujours rien. « Entends-tu ? » Il forçait sa voix. « Entends-tu ou non ? Je te demande si tu entends ou non, parce que je te parle. Quand je parle, je veux qu'on m'écoute, parce que je dis la vérité. » Elle se redressait avec peine. Pas un moment d'arrêt du matin au soir. Les ménages des pauvres sont encore plus difficiles à tenir au propre que les autres. Tout y est tellement usé qu'on n'ose y toucher qu'à peine. Quand elle tirait la commode, les pieds de la commode restaient en chemin. Ces places noires au plafond, quand on voulait les enlever, le plafond venait avec. Néanmoins, elle s'obstinait. Elle se tuait de fatigue. Alors voilà comment elle en était récompensée. Justement, au moment qu'elle se redressait, au moment justement de sa grande douleur, lui tournant encore le dos, allait-elle le supporter encore? Non, pas. Il y a des bornes. Et se tournant vers lui, « Tais-toi !» Elle reprit, « Va te coucher !» Mais lui n'avait entendu que le commencement de la phrase. Tout de suite, il leva la main. « Me taire !» Il dit encore, « Pour ce à quoi tu es utile, mais tu crois que tu mènes tout, égoïste que tu es. As-tu seulement voulu lire ce qui est écrit dans les cœurs ?» Et il continuait de tenir la main levée. Pourtant, elle ne recula pas. Il la vit s'approcher de lui dans l'instant même qu'elle aurait dû faire le contraire. Elle le bravait. « Alors, sauve-toi, ou bien... » Il se mit à compter. « 1, 2, 3 !» À 3, une chaise tomba. « Tu oses ? » cria-t-elle. « Tu n'as pas honte ?» Une autre chaise tombe. C'est une scène de ménage, comme toutes les scènes de ménage. La seule différence qu'il y eut fut qu'elle dura beaucoup moins qu'on aurait pensé. Son bras qu'il tenait levé de nouveau, ce fut comme s'il cassait. Son bras fut comme une branche pas assez forte quand un grand vent souffle. Il a regardé autour de lui comme s'il cherchait un refuge. Il s'est dirigé vers la porte qui menait dans la chambre où il avait son lit. Il marchait maintenant sur la pointe des pieds. Il pesa tout doucement sur le loquet, il se glissa tout doucement par l'ouverture, il referma la porte. Et c'est dans ce même moment qu'elle entra, qui avait encore sur le dos son sac d'école de petite fille, bien qu'elle allât sur ses 16 ans. Ce sac d'écolière, recouvert de poils, avec un losange de cuir rouge au milieu, c'est quelque chose qui prouve encore le peu d'argent dont on dispose. Il faisait rire les camarades de Marie. On avait dû rallonger, comme on avait pu, les courroies. Marie alla le pendre à son clou. Madame Grin s'était remise à 4 pattes et continuait de frotter les traverses brunes en bois dur qu'il y avait dans le plancher de sapin. On se sert pour cela d'un caillou plat. La cire coûte trop cher et risquerait de déborder. Et ce fut comme si rien ne s'était passé. Les chaises avaient été remises debout. Un grand silence régnait de nouveau, où on entendait seulement le bruit de râpe du caillou. C'est ainsi que Marie a eu encore le temps d'aller changer de robe, de mettre un autre tablier. Ensuite, elle est venue. Elle a dit « Maman, je suis prête ». Elle était vilaine à voir. Son tablier lui tombait sur les pieds, lui montait jusqu'au menton. Il avait été taillé dans une pièce de coutil de couleur sale, ni noire, ni grise, ni bleue, une couleur entre ces 3 couleurs. Dessous venaient de gros souliers sans forme. Et au-dessus venait une pauvre petite mine ingrate, une couleur de teint comme celle du tablier, quelque chose de terreux, d'osseux, des tempes creuses, des cheveux tirés en arrière. Les yeux seuls auraient pu être beaux s'ils avaient osé, mais on sentait qu'ils n'osaient pas. Madame Grin s'était tournée vers Marie, la main appliquée au creux de ses reins. Elle soupira, puis elle demanda simplement « As-tu passé à la boulangerie ?» Marie baissa la tête, et à peine si on comprit. « Ils disent qu'ils ne veulent plus, tant qu'on les aura pas payés. » Madame Grin s'y attendait. Pourtant, le coup fut dur. Mon Dieu, c'est donc ainsi. Où qu'on se tourne, tout est misère. À peine sorti d'une peine, il faut qu'on entre dans une autre. Et, difficilement mise debout, voilà qu'elle s'affaissait de nouveau, éployée tout entière contre l'angle de la commode. On a beau faire, il y a des moments où on ne peut plus. Il y a des moments où la machine même s'y refuse. Il y eut un moment refus de la machine, qui le lui a crié par tous ses engrenages usés, ses rouages qui jouaient mal. Il y eut ce grand cri qui était « À quoi bon ? Est-ce qu'on n'a pas fait tout ce qu'on pouvait faire ? Alors, n'est-ce pas ? Se laisser aller, être déjà un peu comme si on était morte, car on ne tient plus à la vie. Et puis, au moins, on se reposerait. Et on en aurait tellement besoin. » Seulement, sa nature n'était pas de consentir. À peine eut-elle touché ce fond qu'elle donna un coup de talon comme le plongeur. « Tu n'as pas su faire, » dit-elle. Et avec de la dureté dans le regard et dans la voix, « Je vais y aller moi-même. S'ils refusent, ils m'entendront. » Elle mit son chapeau, ses souliers, et quand elle fut prête, se tournant vers Marie, « Toi, tu vas finir de frotter les traverses. Ensuite, si je ne suis pas là, tu allumeras le feu. Verse dans le grand pot ce qui reste de lait dans le petit. » Elle fit un grand bruit en refermant la porte. 2. Il n'appela pas tout de suite. Quand même, il y avait un bon moment déjà qu'il était sur le coude. Il s'était couché tout habillé, étant de l'espèce de ceux qui ne se déshabillent plus parce qu'ils ont fini par voir la vanité que c'est et l'embarras que c'est. Il avait gardé son gilet de chasse en laine brune tricotée, son gros pantalon de mylène. Il attendit patiemment, il laissa passer le temps qu'il fallut. Il laissa passer le temps qu'il fallut. Il ne cogna qu'ensuite à la paroi, et une fois qu'il eut cogné, il se laissa retomber sur le dos. Il fit comme s'il dormait, il fermait les yeux. Quand Marie entra, il avait les yeux fermés. Elle pensa qu'il avait dû heurter le mur sans le vouloir, comme il arrive qu'on fasse quand on dort. Elle fit deux pas, s'est arrêtée, puis eut un mouvement comme si elle allait ressortir. Mais à ce moment même, elle s'est tournée de nouveau du côté du lit, et ce qu'il y avait sur le lit fit qu'elle s'avançait quand même. Sur ce lit, mon Dieu ! Et c'est lui pourtant ! Mais est-ce possible ? Elle voyait la bosse ronde que faisait la barbe en broussailles. Plus bas, l'autre, pointue de la pomme d'Adam, dans le cou plissé, crevassé. C'était ce beaucoup trop de peau pour le peu de cou qui restait. La couverture pleine de trous, le pauvre corps de rien qu'on devinait dessous. Et elle aurait voulu s'en aller, mais elle ne pouvait plus s'en aller. Il lui semblait qu'on la tirait en avant avec une corde. Et maintenant se montrait le visage. Alors ce fut comme s'il lui était dit « Regarde !» Elle regardait. Et maintenant il lui était dit « Voilà comment sont les mauvais maris et les mauvais pères, ceux qui font le malheur de leur famille, ceux qui dépensent tout leur argent à boire, au lieu de le donner à leurs femmes et à leurs enfants. Regarde ces poches qu'il a sous les yeux, cette lèvre qui pend, ces petits bouquets de veines roses sur les joues. » C'est cela qui lui était dit, et elle ne pouvait pas comprendre pourquoi elle ne s'en allait pas. Puis, tout à coup, elle a compris. La même force qui l'empêchait de s'en aller la fit se pencher en avant. « Voilà ton ennemi !» lui était-il dit. Mais en même temps, elle fondait toute, ses genoux pliés sous elle, son cœur gagné par tout son corps. Il lui a fallu se pencher, et il lui a fallu se pencher plus encore. Grain avait ouvert les yeux. Il a dit « Je savais bien ». Il semblait tout heureux. Il se mit à sourire. Il reprit « Il m'en faut encore un ». Il fermait de nouveau les yeux pour mieux sentir. mais ensuite elle devint toute rouge. Et lui, de son côté, sa voix changea brusquement. Sa voix devint une grosse voix fâchée. « Dépêche-toi de t'en aller !» Il se soulevait à demi. « Tu entends ? Plus vite que ça !» À présent, il n'y a plus qu'à laisser venir le soir. En arrière de la ville est le mont planté de vignes. Il y eut d'abord sur le mont toutes ces étoiles tombées, à la suite de quoi seulement les vraies sont parues dans le ciel. Ils furent étonnés chez Descosters de le voir, parce qu'il était déjà tard, et que d'ordinaire, quand Grain vous quittait dans l'après-midi, il ne se montrait plus de la journée. « Tiens, dirent-ils, qu'est-ce qui t'arrive ?» Il ne répondit pas. On lui remplit son verre restait plein. Il y avait là Bolomé, le loueur de bateaux, Julien et Frédéric Pidou, deux frères qui étaient pêcheurs. Il y avait Descosters, le patron, il y avait aussi le Parisien avec sa casquette et sa mèche. « Allons, dit Frédéric Pidou, à ta santé quand même !» Et il leva son verre. « Et tu me la rendras, ça te changera les idées !» Grain n'eut pas l'air d'entendre, et tous à présent se tournaient vers lui. Mais il ne parut pas s'en apercevoir. Ils furent maladroits, ils insistèrent. Ils furent un peu maladroits, ils disaient « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Un autre « Est-ce parce que tu n'as plus soif ? Ou bien si tu as des chagrins ?» Grain prit un air fâché. Il se tenait sous la lampe de cuivre où une goutte de pétrole pendait. « Des chagrins ! Parlez pour vous !» Il se mit à les regarder un à un successivement. On le vit qui levait le doigt. « Et puis, tenez-vous tranquille. Le plus à plaindre, ce n'est pas moi. » Là-dessus, il y eut un court silence. Il recommença. « C'est que moi, voyez-vous, j'ai une lumière sur ma route. » On était assez habitué à lui entendre dire des choses qu'on ne comprenait pas très bien. N'empêche que tous s'étaient détournés, et brusquement ils s'étaient tus. Seul le Parisien considérait Grain fixement. Et Grain, l'ayant regardé, lui dernier, son regard s'arrêta sur lui, au lieu qu'il avait glissé sur les autres. Il regardait le Parisien le regardait. Ils se regardèrent ainsi un moment encore, puis Grain reprit la parole. « Je vois, dit-il, tu as compris, tu es le seul qui ait compris, c'est que tu es le plus malade. » Chapitre 2. Le printemps a fini par venir, c'était le soir. Les messieurs de la ville sortaient de chez eux pour prendre l'air, les uns s'installaient dans leur jardin, les autres sur le pas de leur porte. D'autres encore, qui n'avaient ni maison à eux, ni jardin, et qui étaient trop paresseux pour aller se promener, poussaient simplement une chaise dans l'embrasure de la fenêtre ouverte. Ils avaient fini leur journée. Leur compte était bouclé. C'est un temps de répit dont on aime à profiter pour se renseigner un peu sur ce qui se passe. Ils se mettaient chacun à son poste d'observation. Et, quand ils regardaient, ils voyaient que, dans les maisons voisines, tout le monde faisait comme eux, d'où ils tiraient plus d'assurance encore et un contentement nouveau. Nous nous sentons les coudes, comme on dit. L'ordre règne. Nous savons exactement à quoi il faut croire, ce qu'il faut penser. Nous avons notre vérité à nous. On est renseigné, n'est-ce pas ? Jusqu'à connaître à un franc près ce que chaque contribuable paie annuellement d'impôts. Rien ne passe inaperçu. On se surveille les uns les autres. Tiens, voilà Madame Barlet qui a une robe neuve. Il faut croire que le commerce de son mari va bien. Le soleil n'était pas couché encore, mais il était très bas à l'horizon. Au bout de la grande branche flexible du ciel, pend ce fruit qui s'est alourdi en mûrissant. Sur la croûte des toits, comme celle d'un pain trop cuit, la lumière vient de côté. Un petit air de beau temps souffle, qui fait se balancer sur la place du port les filets des pêcheurs, tendus entre leurs perches. Et là sont aussi des petites filles qui jouent avec leurs poupées, s'étant assises en rond sur le gazon pelé. C'est l'autre côté de la vie, c'est-à-dire le joli côté. Un bateau à vapeur paraît. On voit très bien du bateau les vignes, posées l'une sur l'autre, comme des marches d'escalier, monter ainsi jusqu'en plein ciel. Il y a dans le bateau des dames qui ne sont pas du pays. Elles se disent « C'est donc un pays de vignobles !» Elles s'en étonnent, et elles admirent longuement, dans cet abandon heureux où on est, quand on n'a plus qu'à se laisser aller au cours tranquille d'un beau voyage, le mont, la petite ville, son port, toutes ces belles choses qui passent, avec les grands ormes du quai penchés étrangement vers l'eau, comme un qui aurait soif et qui se pencherait pour boire. Cependant, les petites filles, ayant arraché des touffes de pissenlit, les hachaient à l'aide de cailloux tranchants. « C'est de la salade pour nos filles qui ont besoin d'être purgées. Madeleine, voulez-vous un peu de salade? Vous n'en voulez point. Vous serez fouettée. » Madeleine fut fouettée. Une cloche sonna. « Il vous faut rentrer, mes petites. On a vu le ciel devenir rose, là où le soleil s'est couché. Plus haut que ce rose, il y a du vert. Les hirondelles, qui tournent encore au-dessus des ormes, sont au moment de regagner leur nid. Ces messieurs n'avaient pas quitté leur place. Monsieur Guichera, le banquier, tenait compagnie à Monsieur Boll, le notaire. Tous deux fumaient des cigares à bout tourné, comme on dit chez nous, qui sont des cigares qui coûtent cher. Un petit filet de fumée bleue montait tout droit. La cendre s'allongeait indéfiniment, sans tomber. Et les Suez? Elles ne vont pas fort. Cette plaque de rose là-bas, entre les deux girouettes sur le toit de Monsieur Glardon, a fondu peu à peu sur ses bords, comme une gelée. Dites donc! Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Guichera venait de tendre le bras. C'était Madame Grain qui entrait à l'épicerie. Et Monsieur Guichera, avec un sourire, « Heureusement que Duport est prudent !» Monsieur Boll se mit lui aussi à sourire. On a entendu le bruit de la sonnette qui pendait à un fil de fer derrière la porte. On entendit de nouveau le bruit de la sonnette. « Qu'est-ce que je vous disais ?» recommença Monsieur Guichera. Et cette fois, il riait tout haut, et pareillement le notaire. Madame Grain était sortie très vite de la boutique, avait fait quelques pas très vite dans la rue. Tout à coup, elle s'arrêta, ne sachant pas qu'on l'observait. Elle regarda un instant ses pieds comme quelqu'un qui réfléchit. Elle secoua la tête, puis, levant lentement la main, elle s'en couvrit les yeux. Juste s'il faisait assez clair pour qu'on pût distinguer, non pas son expression, ni le détail de sa personne, mais l'attitude qu'elle avait. On la vit, penchée tout entière, et puis elle s'est laissée tomber contre le mur. « Elle est à plaindre tout de même, » dit alors Monsieur Boll, qui n'était pas un méchant homme. Son mari lui a pris tout ce qu'elle avait. Non seulement il ne l'entretient plus, mais elle doit l'entretenir. Et il y aurait bien quelque chose à dire à ce sujet des prescriptions de notre code. » Il fut interrompu. « Permettez, » disait Monsieur Guichera, « il est rare, quand un ménage va mal, qu'un des conjoints ait tous les torts. Le mari boit, la femme y est toujours pour quelque chose. Et bien entendu qu'il a des droits, mais il a toutes les responsabilités. » Cependant, répliquait Monsieur Boll. Ils entamèrent une discussion. La sonnette de l'épicerie sonna pour la troisième fois. On vit sortir Duport en compagnie d'une grosse dame qui portait un paquet de sucre. Et comme la boutique venait de s'éclairer, il n'y a qu'à tourner le commutateur, cette électricité est bien commode. Leurs deux personnes se marquaient en noir avec force sur le vitrage. Il n'y a pas, il faut de l'ordre. Il faut de l'ordre, disait Duport. La grosse dame hocha la tête.
Moi-même, voyez-vous, j'aurais une tendance à être un peu trop coulant. Heureusement que ma femme me surveille. Elle a l'esprit plus commerçant que moi. Elle me dit « Émile, tu vas faire une bêtise. » Je me suis toujours bien trouvée de l'avoir écoutée.
La grosse dame s'en alla. Madame Grain avait disparu. Cette fois, la nuit venait tout à fait, comme on vit aux étoiles qui ont été jetées par poignées dans le ciel. Elles brillaient, carrées et pointues, entre les toits. Quand on levait la tête, les rues faisaient là-haut des ruisseaux noirs, pleins de ces petits cailloux blancs. Il y eut de l'animation parce qu'on fermait les croisées. Les contrevents criaient longuement, étant anciens et délabrés, et la rouille du gond oppose de la résistance. Mais bientôt tout se tut. À quoi on reconnaît le bon esprit de nos petites villes? C'est qu'on s'y couche de bonheur. Les quelques exceptions qu'il y a sont inscrites dans nos livres. C'est des gens qui sont en dehors des règles, ils le sentent bien, ils s'exilent dans leur café, ils tirent des rideaux sur la vergogne qu'ils en ressentent. Justement, l'agent de police se tenait devant le café d'Écostère, qu'on appelait aussi café du port, le plus mal fréquenté de tous. Un bon gros homme à épaisse moustache, casquette haute, uniforme gris de fer, bottines à élastique bien cirées. Sa canne sous le bras, il causait avec le facteur. Il n'y avait le jour derrière le vitrage que de simples rideaux blancs, mais quand il allumait la lampe, le patron disposait, par-dessus, intérieurement, des espèces de stores en toile épaisse. C'est cette façon de se cacher qu'on vient le dire. Et on causait donc devant le café. Mais dans le café aussi, on causait. Quoique moins posément, peut-être. Une grande rumeur venait de derrière la triple épaisseur des carreaux, des rideaux, des stores. Il y avait parfois un rire général. Un silence a suivi. Une voix s'éleva. « Le cœur d'abord ! Je dis le cœur à la première place !»«
C'est ce fou de Grain !» dit l'agent.
Et il allait ajouter quelque chose, étant un homme sentencieux, quand le Parisien arriva. On le reconnaissait de loin à son allure, et il ne faisait aucun bruit, ayant au pied des espadrilles. La lumière, à travers le vitrage, l'éclaira. On vit le mauvais air qu'il avait, cet air fatigué qu'il avait, cette vilaine mèche aussi. Il tenait les mains dans ses poches. Tout à coup, la visière de sa casquette a brillé. Il venait droit sur les deux hommes. Eux songèrent bien un instant à s'écarter, mais l'amour-propre les en empêcha. Ils demeurèrent donc où ils étaient. Et lui a passé exprès tellement près d'eux qu'il les a frôlés. Puis la porte du café du port s'ouvrit, jetant dehors, comme à deux mains, un paquet de voix dans la nuit. Déjà, elle s'était refermée. Si l'agent de police ne se fâcha pas tout de suite, ce fut seulement qu'il y mit son temps, comme en toute chose. Mais il n'en éclata que mieux l'instant d'après.
« Qu'il fasse attention, celui-là, je le surveille. Dire que ça n'a pas 25 ans et que ça a déjà rôdé partout, et que c'est plein de maladies. Et qu'il fasse attention, je dis bien, parce que je le surveille. La prochaine fois, je le fourre dedans. »
Plus il allait, plus il s'échauffait. Quoique accommodant d'ordinaire, mais il y a des bornes à tout, comme il disait en remontant la rue. Et le facteur,
bien sûr.
La place demeura déserte, avec, entre les troncs des arbres, sous l'épais feuillage, immobile et comme taillé dans de la pierre noire, des plaques de lac d'un bleu foncé. L'eau était tellement lisse cette nuit-là qu'on voyait dedans toutes les étoiles, plus blanches seulement que celles du ciel et plus grandes. Elles bougeaient un peu, se déplaçant à sa surface,
on pensait à ces fleurs qu'il y a sur les étangs. Et beaucoup de temps passa encore. C'est ainsi qu'il n'y eut que les demoiselles Chapuis qui la virent quand elle vint, beaucoup plus tard, vers les 11 heures. Elles aussi faisaient exception à la règle, étant deux vieilles filles romanesques qui tenaient une petite école et aimaient les fleurs et les animaux. Ces belles nuits étoilées les faisaient rêver à des choses comme si elles avaient eu 20 ans. Bien plus peut-être encore que si elles avaient eu 20 ans. Alors, elles venaient s'installer sur leur galerie à colonnettes de bois peint en gris, tout enguirlandées de jasmin, et s'y oubliaient jusqu'à des minuit, des 2 heures, assises l'une à côté de l'autre dans des fauteuils d'osier, bien emmitouflées dans des châles, les mains croisées sur les genoux. Elles ne parlaient pas, rien qu'un soupir de temps en temps. C'était assez pour qu'elles se comprissent. Cette petite communication d'un soupir dans la nuit suffisait. Ou encore les mains qu'on décroise, son châle qu'on ramène parce qu'il a glissé. Tout au plus, si à un certain moment, Mademoiselle Rose montrait une étoile. C'est bien Cassiopée ? Et Mademoiselle Alice, qui était la plus savante des deux, non, c'est Orion. Puis de nouveau elle se perdait en esprit dans cet infini grenier de là-haut, où la Voie lactée semble un tas de farine. Et ailleurs, on dirait que des sacs de blé ont crevé. Elles ont pu tout voir, parce que leur maison avançait un peu. À ce bruit de pas qui se fit, elles se tournèrent de côté. Marie débouchait de la rue. « Eh mon Dieu !» dit Mademoiselle Rose, qui l'aperçut la première. Et Mademoiselle Alice, « Eh mon Dieu !» Pauvre petite, seule, à 16 heures. Elles s'en sentirent toutes remuées. Elles se tenaient tournées vers l'angle de la rue, et comme le café se trouvait quelques pas plus loin, Marie maintenant se montrait de dos. Elle continuait d'avancer, mais pas à pas, avec un arrêt entre chaque pas, et comme avec hésitation, et plus que de l'hésitation. On voyait cette devanture éclairée et des pots de laurier devant. Elle s'avançait tout contre les murs, en sorte que, si par hasard quelqu'un fût sorti du café, il ne l'aurait pas aperçu. Elle se trouva ainsi arrivée sur le côté droit du vitrage. De nouveau se faisait entendre confusément à l'intérieur un bruit de voix. Elle, on voyait son petit dos, ses maigres petites épaules noires un peu voûtées, qui se voûtèrent davantage, qui se firent encore plus petites parce qu'elles se penchaient en avant. Elle tendit en avant sa figure, elle la promenait de droite et de gauche, cherchant sans doute à glisser un regard entre les rideaux. « Pauvre petite !» pensèrent en même temps les deux demoiselles Chapuis. C'est pour son père qu'elle est venue. Et puis, est-ce qu'elle va oser entrer? Cet affreux café plein d'hommes ivres. Et elle se sentait tordue à la fois d'amour et de crainte, fière à la fois de son courage, et qui aurait voulu pourtant la retenir. Entrerait-elle? N'entrerait-elle pas? D'abord, Marie fut immobile. Tout à coup, elle se redressa. Elle avait dû apercevoir celui qu'elle cherchait. Elle n'hésitait plus, la porte fut ouverte. Il y eut de nouveau une brassée de voix jetée sur la place. Soudainement, tout se tut. La porte, pourtant, restait entr'ouverte. Et à présent, quelqu'un s'était mis à parler. On parlait rauque et fort, comme quand on est en colère. On parla assez longtemps, on parlait de plus en plus fort. Pour finir, on a donné un grand coup de poing sur la table. Marie avait reculé. La porte se refermait peu à peu. Marie reculait toujours. La porte se referma tout à fait. Et elle fut de nouveau seule dans la nuit, mais avec un espoir en moins, comme on voyait à ses mains qui pendaient, sa tête qui pendait de même, ses épaules plus rentrées que jamais sous le fichu noir. « Écoute, Alice !» dit Mademoiselle Rose. si on l'appelait. On lui donnerait un verre de sirop. Mais peut-être qu'elle a faim, on la ferait manger. On la raccompagnerait chez elle. Mais elles n'allèrent pas plus loin, parce que la porte du café venait de se rouvrir. Et ce fut ce garçon à casquette et à mèche. Elles le virent s'approcher de Marie, elles le virent qui lui parlait, et Marie qui lui répondait, et Marie qui hochait la tête. Puis tous deux se mirent en route. Ils marchaient l'un à côté de l'autre. Ils tournèrent ensemble le coin de la rue. D'abord, les demoiselles Chapuis furent déçues et choquées. « Si jeune, 16 ans à peine, c'est quand même trop tôt !» Mais tout à coup, songeant à sa misère et à sa dure vie, un attendrissement leur vint, parce qu'elles étaient bonnes. Elles l'excusèrent. Elles n'avaient rien dit d'un grand moment. Puis, comme si elles se disaient mutuellement dans le cœur, Mademoiselle Alice, « Nous n'avons pas le droit de la juger. » Mademoiselle Rose, « Non, nous n'en avons pas le droit. » Et, leur imagination repartant, de nouveau des images étaient peintes devant leurs yeux, toutes sortes d'aventures. Elles se turent, elles soupiraient. Peut-être même bien qu'à présent, ce soupir n'allait pas sans un tout petit peu d'envie. Chapitre 3. On l'appelait le Parisien parce qu'il avait vécu longtemps à Paris. On ne savait pas trop le métier qu'il faisait. Il habitait une petite chambre sous les toits. C'était 4 murs passés à la chaux avec des inscriptions et des dates. D'autres sont venus ici avant nous et ont tenu à nous le faire savoir. Ça penchait, c'était de travers, la pente du toit descendait en ligne oblique d'un mur à l'autre. Point de fenêtre, une simple lucarne. Partout des fentes où sifflait le vent. Il y a que ces vieilles maisons ont joué, comme on dit, et ce qui tenait ensemble ne tient plus ensemble, et ce qui était rejointé ne l'est plus. Les vieilles maisons ont-elles aussi leur rhumatisme? Comment s'en étonner, après tant d'hivers, d'étés, tant de pluie, de soleil, de neige? Mais on s'y loge pour pas cher. C'était seulement ce qu'il avait vu. Le reste l'intéressait peu. Il avait racheté pour quelques francs les meubles qui meublaient la pièce, un lit de fer, une table en sapin, 2 chaises, un pot à eau, un petit miroir à cadre de tôle peint en faux bois. Et le lit n'avait que 3 pieds. Le pot à eau fuyait, le miroir était fendu, mais à nous autres, que nous importe? Et même tant mieux si tout est détruit. C'est un accord de plus entre les choses et nous. Aussi l'étonnement de la rue fut-il grand, quand on le vit, un jour, aller acheter un balai, un pot de couleur à la colle, une tringle, du fil de fer. Naturellement, on le surveillait. Il fut donc facile de savoir aussi qu'il avait été emprunté un seau et un torchon à une de ses voisines. Et la même voisine, s'étant introduite dans sa chambre, raconta qu'il avait réparé le lit, lavé le plancher, repeint les murs. Ce fut dans le temps que le printemps venait. La voisine disait « À présent, c'est beau blanc. C'est comme de la crème chez lui. Et il y avait des vilaines gravures au mur. Il les a ôtées. » Qu'est-ce que ça représentait? Je n'ose pas vous raconter. Il fallut l'en croire sur parole, quant à ces changements qu'elle fut seule à avoir vus. Mais ce que ces gens virent bien, ce fut ce que le Parisien avait introduit dans sa tenue. Ceux aussi qui se marquèrent bientôt dans son allure et dans toute sa conduite, sortant et rentrant à des heures régulières, ayant fait couper sa mèche, n'ayant plus cet air de vous braver qu'il avait. Est-ce que le Parisien se rangeait? Il se rangeait. On apprit qu'il avait trouvé une place à l'usine à gaz où il gagnait 20 francs par jour. On apprit également qu'il avait rompu avec la Brûlée. C'était une personne dont on ne peut pas dire le métier qu'elle faisait. On l'appelait la Brûlée à cause d'une brûlure qu'elle avait à la joue droite. Autrefois, disait-on, elle était repasseuse, et cette brûlure provenait de la mauvaise habitude qu'elles ont dans le métier d'approcher la plaque de leur figure pour s'assurer qu'elle est chaude. « Elle vient encore, » racontait la même voisine. « Elle attend qu'il fasse nuit et se glisse dans l'escalier. Mais elle a beau heurter, il ne lui ouvre plus. Même on l'entend des fois qui pleure, et elle ferait pitié si on ne savait pas qui elle est. » Tous ces bruits se mirent à courir, en même temps que le printemps venait. D'autres bientôt s'y ajoutèrent. Et il y eut encore le bruit que Grain s'était brouillé avec le Parisien, parce que celui-ci avait refusé d'aller boire en sa compagnie. Tout petit bruit, d'ailleurs, et qui ne dépassait pas le quartier, même un quartier réduit à 2 ou 3 maisons, pas très bien habitées, mais le commencement des choses est souvent tout petit. Cependant, il était assis dans sa chambre sous la lucarne, avec un journal qu'il ne lisait pas. Il faisait rose sur la feuille imprimée, à cause d'un reflet que lui renvoyait le plafond. C'est ce plafond en pente qu'on a vu, et plus on avançait vers la lucarne, plus il fallait baisser la tête. Mais plus on avançait vers la lucarne, plus nombreuses aussi les choses venaient à la vue. D'abord, on n'apercevait rien par ce trou carré que le ciel. Puis, c'était la montagne, puis le lac, puis les toits. Comme des ballons lâchés un à un, les choses montaient partout dans l'espace. On s'avançait, les choses montaient, les belles montagnes montaient, entraînant le lac à leur suite. Au lac pendaient des toits, à ces toits des jardins. Il venait des choses par grappes, et elles se tenaient, pour finir, toutes ensemble devant vous. Puis, pour peu qu'on se rassît, elles disparaissaient de nouveau. Il ne restait plus que la lumière. Ainsi, un jour, il s'était avancé, et les choses une à une étaient remontées dans sa vie. De la porte à la lucarne, il y avait tout un trajet. Il avait fait ce trajet. Il n'avait plus besoin de le refaire. Il se tenait sous la lucarne. Prétexte seulement que ce journal sur ses genoux. Parce qu'il n'y a point de vie en eux. D'autres peuvent y vivre le monde. Lui, au contraire, il avait trop de vie en lui. Comment faire seulement pour l'utiliser, n'ayant pas su l'utiliser encore? Et quand on ne l'utilise pas, elle vous dévore en dedans. Mais il n'avait qu'à fermer les yeux, et une autre lumière venait. C'est quand la phrase avait été dite. Il n'avait qu'à fermer les yeux. Il voyait les tables de bois brun, la grosse lampe en cuivre, les litres. Là, la phrase avait été dite. Et les autres s'étaient détournés, mais Grain le regardait, et lui regardait Grain. Il n'avait qu'à fermer les yeux, et il voyait ce soir, quand il était sorti et il marchait près d'elle. Ce soir, où il y avait tant d'étoiles, et les petites vagues faisaient un bruit très doux. Il fermait les yeux, il les rouvrait, il se mettait à soupirer. Des cris venaient de dedans les jardins où des petites filles jouaient à bêtes noires. Depuis, sur le port, venaient des voix d'hommes. Depuis, beaucoup plus loin, sur l'eau, parce que l'eau porte le son, des rires et des chants, et le choc sourd des rames contre la coque d'un bateau. Fermons les oreilles à ces voix du monde pour mieux entendre en soi cet autre qui rassure et qui fait peur en même temps. Oserait-il jamais? Il ne l'avait pas revue depuis leur rencontre devant le café. Il savait seulement qu'elle travaillait chez une couturière où sa mère l'avait mise en apprentissage. Oserait-il jamais lui dire ce qu'il avait à lui dire? Il se décida à oser. Il pensa, « Il faut d'abord que je fasse voir à ses parents que je ne suis plus le même, sans quoi ils ne voudront pas de moi. » Il pensait, il y a d'abord son père et sa mère. Et comme il était brouillé avec Grain, il se disait, « C'est à Madame Grain qu'il faut que je m'adresse. » « Mais, continuait-il, comment faire? Les paroles ne signifient rien, c'est une femme méfiante. » Il voyait qu'en effet, il fallait une preuve, et finalement il en trouva une. Et il fut maladroit. Mais quelle meilleure preuve que cette maladresse même, si seulement on avait su voir. Il s'était dit, elle ne doit pas savoir comment se tirer d'affaire, puisque Grain ne lui donne plus rien depuis longtemps. J'ai un peu d'argent, je le lui offrirai. Je viendrai, je serai comme un fils qu'elle aurait déjà. Alors, elle me croira peut-être. Et il alla, mais pour revenir tout de suite après. Alors, à ce que la voisine a raconté plus tard, la brûlée, elle aussi, cette même nuit, était revenue. Mais voilà que, cette fois, on l'avait laissée entrer. « Fini les bonnes résolutions, » disait-on. « Fions-nous-y. C'est comme les drapeaux qu'on met aux fenêtres. La fête passée, on les ôte. Ah oui, fions-nous-y. » On riait. Et lui, pendant ce temps, encore couché sur son lit, il rouvrait les yeux à lui-même et n'arrivait pas à comprendre. C'était comment il était monté l'escalier, la façon dont Madame Grain l'avait reçu, comment il s'était obstiné quand même. Puis la main mise dans sa poche, cette bourse qu'il en avait tirée. « Voyez-vous, j'ai pensé, il y a 15 francs, et je vous demande pardon si c'est tout en petite monnaie, mais le contremaître qui a fait la paix... » Comment il n'avait pu aller plus loin? « Lâche que vous êtes, profitez du malheur d'autrui, lâche !» Et alors cette porte qui s'était refermée. Tout revenait, toutes ces choses, et il s'étonnait d'elle. Mais il s'étonnait plus encore de lui-même quand il se rappelait ce qui s'était passé ensuite. Comment il avait pu l'écouter de nouveau, celle-là, quand ce qu'elle disait était venu par le trou de la serrure? Ces pauvres choses tremblantes et chuchotées étaient venues, et on suppliait et on appelait. Mais il s'était fait des promesses. Mon Dieu, le chemin qu'on a pris est encore plus difficile qu'on aurait cru. Elle pleurait de bonheur parce qu'il l'avait fait souffrir. Il avait fait souffrir tout le monde. Est-ce peut-être seulement qu'il est défendu de chercher à être autre chose que ce qu'on a toujours été? Grain s'était plaint d'avoir été abandonné par lui. Grain ne voulait plus le connaître. Madame Grain l'avait traité de lâche. Et maintenant, celle qu'il savait bien, est-ce que jamais plus il oserait, après ce qui s'était passé? Il pensait, alors voilà, l'autre reviendra. Elle a un vilain nom, mais c'est une pauvre fille et elle est complaisante. On redescendra ensemble. Elle pèse sur moi de tout son poids et m'entraîne. Je me laisserai aller avec elle. On descendra, il fera nuit, et de nouveau elle me mordra en criant la bouche. Alors on ne sait plus si elle crie de joie ou si elle crie de douleur. Il la prenait en pensée, il l'écrasait contre lui. Il se soulevait un peu, et elle avec lui. Et je mords à mon tour dedans, comme dans un morceau de pain quand on a faim. Je l'écraserai contre moi jusqu'à ce qu'elle retombe et que je retombe. Après quoi, on sera l'un à côté de l'autre et on sera comme des morts. » Il ne bougeait plus en effet, mais à ce moment, il rouvrit les yeux. Il ouvrait de nouveau les yeux. La grande lumière était toujours là. Il s'aperçut qu'il avait ouvert les yeux. Il connut de nouveau la blancheur des murs où l'image des changements déjà opérés était présente. Il faisait beau blanc dans la chambre. Il sentait sous lui le sommier d'aplomb, là où avaient été les vilaines inscriptions au crayon, des noms d'hommes et des noms de femmes, et des cœurs percés d'une flèche. Seule cette clarté régnait. Le ciel était un carré bleu dans la lucarne. Une voix de femme qui chantait une chanson se faisait entendre. « Est-il vrai qu'on doive espérer quand même ?» il demanda. « Est-ce vrai ?» Il lui fut dit « C'est vrai. »« Est-il vrai qu'on doive oser ?»« C'est vrai. » »« Même après ce qui s'est passé ?»« Même après ce qui s'est passé. » Et un sourire était devant lui, qui était son sourire à elle. Alors, se soulevant, puis se mettant debout, Je lui dirai tout, parce qu'il y a elle, et elle, peut-être qu'elle comprendra. » Justement, les ouvrières de Madame Giroux veillaient ce soir-là à cause d'une robe de noces qu'elle devait livrer le lendemain. La patronne bâtissait, les trois ouvrières cousaient. Marie, elle, défaufilait. Deux grosses lampes sans abat-jour éclairaient durement ses figures penchées. Et sa figure à elle aussi était durement éclairée, tandis qu'elle tirait sur les fils. Il y en avait des blancs et des rouges. Elle tirait sur ses fils qui faisaient faire des plis à l'étoffe en venant. Et tantôt elle les cassait entre ses doigts, tantôt elle les coupait avec des ciseaux. Depuis 7 heures du matin qu'on est là. Et il va être 10 heures du soir. Rien d'étonnant que la fatigue se fasse sentir. La lumière des deux lampes exagérait encore la pâleur grise de son teint et ce peu de cheveux qu'elle avait, sans couleur, des cheveux comme de la poussière. Et le pauvre petit corps aussi que c'était sous le corsage en flanelle coton. Ses épaules rentrées, cette poitrine plate, des bras aux mains trop grosses et osseuses, aux poignets carrés. On est toute application et toute bonne volonté. Mais il n'y a rien en nous, semble-t-il, qu'application et que bonne volonté. Ces autres ont des plaisirs. Tout en nous dit qu'on n'en a point. À cause de quoi on est méprisé. Voilà que 10 heures sonnaient. Ces demoiselles s'étaient levées. Vite, elles avaient été mettre leur chapeau devant le miroir. Marie, elle, ne pouvait pas s'en aller de sitôt, ayant encore à balayer la chambre. Il fallait se tenir pliée en deux, aller ramasser avec les doigts les bouts de fil et les morceaux d'étoffe que le balai n'amenait pas, souvent se mettre à quatre pattes sous la table. Mon Dieu! Est-ce parce qu'il y a une destinée qui veut que la fille ressemble à la mère? Mais elle aussi, quand elle se redressait, comme le dos lui faisait mal. Il était près de 11 heures quand elle put s'échapper enfin. La maison était au bord de la route, qui est elle-même bordée de grands ormes. Ils furent d'abord dressés entre Marie et le ciel, et elle ne s'aperçut de rien d'abord, tandis qu'elle s'était mise à marcher, courant presque. Tout ce premier bout de chemin, elle le fit dans une obscurité profonde, et parce qu'elle tenait la tête baissée, ce fut seulement par la couleur de la route à ses pieds qu'elle connut plus loin le changement qui s'était fait. Mais alors elle leva la tête, et tout était tellement changé qu'elle s'arrêta. Le ciel s'était montré, la lune pendait dedans. Il faisait doux et bleu, extraordinairement bleu et doux partout. Et dans cette douceur de bleu, baignait le lac, baignait les choses. Elle se tenait là. Qui sommes-nous? Sait-on jamais? On s'est dit qu'on se dépêchera de rentrer, parce que votre mère doit être inquiète et qu'il faudra se lever de bonne heure le lendemain. On n'y pense déjà plus. C'est une telle douceur. La fatigue s'est en allée. Cette peine qu'on s'est donnée, on voit qu'elle n'était rien. Il y a autre chose en nous. Et c'est cette autre chose maintenant qui se réveille. Il y eut tout à coup une autre Marie, une Marie pas connue encore, qu'elle-même ne connaissait pas. Immobile pour le plaisir maintenant, et maintenant prête au plaisir. Toutes les bonnes choses qui existent quand même. À côté de la route, le lac bougeait contre le quai. Deux cygnes comme des blancs d'œufs battus en neige étaient dessus. Elle voyait la lune au ciel, elle voyait la lune dans l'eau. Où est-ce que le ciel d'en haut commence? Où est-ce que l'autre ciel, celui d'en bas, finit? On sent que tout devient possible. Une beauté est suspendue devant nous dans le vide, et il nous est dit « Profitez !» Est-ce que je ne profiterai pas? Et comme elle ouvrait largement la bouche, toute cette tiédeur d'air est entrée, sentant bon la girofler à cause des jardins qu'il y avait derrière les murs. Néanmoins, Marie était repartie. Elle avait pris le long de l'eau. Là, avant la place du port, est une sorte d'étroit jardin public coupé par-ci par-là entre des buissons en massif par de courtes allées. Il sortit de derrière un de ces buissons. Elle n'en ressentit aucune frayeur. Elle n'en fut même pas surprise. Tout était devenu possible. Il y avait un ordre nouveau. Il venait en vertu de cet ordre nouveau. Elle le regardait venir. Elle le reconnut tout de suite. Il sortit de dedans la nuit, comme de dedans les plis d'un rideau. Il se dédoubla de ses plis de nuit, à cause que la lune était de nouveau cachée derrière des arbres. Il se mit à marcher à côté d'elle. Une petite fontaine, qui coule là sous un toit de tuiles, se fit entendre à ce moment, disant des choses toutes simples, avec un accent de chez nous. Il laissa d'abord passer la fontaine, parce qu'elle parlait mieux que lui. Il avait décidé de tout lui dire. C'est pourquoi il n'était pas pressé. La jupe de Marie frôlait sa main qu'il laissait pendre. Comme elle laissait aussi pendre la sienne, il n'aurait eu qu'un petit mouvement à faire pour la toucher. Il n'y pensait même pas. Il s'était dit « Quand on arrivera au troisième banc ?» Il laissa donc passer le premier banc, le deuxième. Il n'eut ensuite aucun effort à faire. Les mots se répandirent d'eux-mêmes hors de lui, comme la graine quand elle est mûre. Il dit « Laissez-moi tout vous dire, parce que vous ne me connaissez pas. Vous me croyez peut-être meilleur que je ne suis. Vous ne m'avez pas vu souvent, vous ne m'avez jamais vu dans mes mauvais jours. Et jusqu'à présent, mes mauvais jours, ils ont été toute ma vie. » Il se fit un pli entre ses yeux, comme quand on cherche à se souvenir. « Tout petit déjà, voyez-vous, je n'avais pas 15 ans quand je me suis sauvée. Je ne pouvais plus tenir à la maison, parce que c'était tranquille et honnête. J'ai fait sauter le bureau de mon père. Il y avait dedans 3 billets de 50 francs et des écus. » À cet endroit, il s'interrompit. Il demanda « Est-ce que je peux continuer ?» Elle ne répondit rien. Il continua. J'allais à pied. Je prenais le train, je couchais dans des granges. Des temps, je travaillais. D'autres fois, je ne faisais rien. J'ai volé, j'ai menti, j'ai trompé, j'ai trahi. Il s'interrompit de nouveau. Est-ce que je peux continuer? Et si je ne peux pas, dites-le moi. Elle ne répondait toujours rien. Parce qu'il faut que je vous dise tout. Et il me reste des choses à vous dire, que je ne sais pas comment vous dire, mais peut-être que vous devinerez. C'est que je leur plaisais. Alors elles venaient, et moi, je me moquais d'elles. Elles me disaient « Pourquoi t'en vas-tu ?»« Parce que ça me plaît. » Elles pleuraient. Encore une fois, « Est-ce que je peux continuer ?» Et comme, encore une fois, elle n'avait rien répondu, « Est-ce bien vrai? Est-ce bien vrai? Mais pourrais-je encore, quand vous saurez tout ?» Il haussa la voix. « J'ose? J'ose? Dites !» Puis, « Non, ne dites rien, parce que ça n'est pas tout. Il y en a encore une autre. Hier soir encore, comprenez-vous, et aujourd'hui, je suis avec vous, mais demain peut-être, si elle revient, comprenez-vous ? On avait tâché d'oublier. On descendait toujours plus bas pour oublier. » Et sa voix alors a fléchi comme la branche sous un poids. C'est tout. Elle n'avait toujours rien dit, mais elle continuait de marcher à côté de lui, et sans oser y croire encore, il commençait à voir que c'était sa réponse. Il voyait qu'il avait bien fait d'espérer. Il voyait qu'il avait bien fait de venir. De nouveau, il n'avait plus qu'à se taire. Ainsi, ils sont arrivés à une espèce de renfoncement où l'eau se continue par un plan incliné aux larges dalles de granit. Dessus, et couché de côté, comme quelqu'un qui dort la tête sur son bras, il y avait 3 ou 4 coques noires. La lune, à ce moment, était reparue dans le ciel, parce qu'on venait de sortir de dessous le couvert des arbres. Ses longs cheveux dénoués pendaient à la fois dans l'air et dans l'eau, sans le plus petit mouvement. Ils furent forcés de s'arrêter à cause de ce renfoncement. toujours tellement de lune. Elle a levé un peu les yeux. Elle regardait au loin quelque chose. Et la réponse fut qu'elle continua d'abord de regarder ainsi, au loin, cette chose. Ensuite, un petit sourire lui est venu. Et voilà, elle baissait de nouveau la tête, mais le petit sourire durait par en dessous. Alors il a dit « C'est pas vrai !» Puis « Que si c'est vrai !» Puis « Je savais bien !» Alors il s'approche un peu, elle tenait les mains croisées sur sa jupe, elle baissait la tête tout à fait. Elle baissait la tête. Et puis quand elle l'a relevée, « Jamais elle ne voudra maintenant, » a-t-il pensé. « Elle est trop belle pour moi. » Car, comme quand du bouton cotonneux on voit sortir la fleur brillante de couleur, ainsi il a semblé que l'espèce d'enveloppe grise qu'il y avait sur son visage s'était fendue par le milieu. Pour la première fois, son vrai visage se montrait. Et il a eu peur. Il a eu peur. Il a été triste. C'était lui à présent qui baissait les yeux, elle qui le regardait. Le petit sourire durait pourtant. Elle haussa un peu les épaules, et toujours cet œil tourné du côté, un petit point de feu dessus, une petite flamme tremblotant sur le blanc, à cause du reflet de la lune dans l'eau. Il cherchait une phrase, il ne la trouvait pas. Tout à coup, il a tiré un petit paquet de sa poche, et très vite, « Je l'avais préparé pour vous. C'est un bout de ruban. C'est un petit cadeau que je voulais vous faire. Alors, si c'est oui, dimanche prochain, cousez-le à votre chapeau. »